Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi soir, 4 janvier 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Des armes stratégiques iraniennes utilisées par les forces de la résistance ont empêché les ennemis de pouvoir réaliser leurs objectifs, a dit le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami. En Syrie, des terroristes ont tendu une embuscade à des bus circulant sur une autoroute dans le centre du pays. 9 personnes, dont une fille de 13 ans, ont été tuées. Et la France va très probablement réduire les effectifs de sa force Barkhane au Sahel. C'était les principaux titres, en voici le journal. Des armes stratégiques iraniennes utilisées par les forces de la résistance ont empêché les ennemis de pouvoir réaliser leurs objectifs, a affirmé le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami, lors d'une cérémonie commémorative à l'occasion du premier anniversaire de la mort en martyr du général Rassem Soleimani à l'académie militaire Imam Hossein. Le ministre de la Défense a affirmé que la présence de l'Iran dans la région n'est certainement pas au goût des ennemis qui y cherchent évidemment leurs propres intérêts. Les ennemis ont créé des groupes terroristes en Asie de l'Ouest afin d'atteindre certains objectifs, mais la présence stratégique de l'Iran les a empêchés de le faire, a indiqué le général Hatami. L'ordre hégémonique a mis en œuvre toutes ses potentialités scientifiques, financières et en armement en appui aux terroristes afin de pousser cette région vers un démembrement et ce, pour assurer la sécurité du régime sioniste. Malgré tous ces efforts, des armes stratégiques iraniennes dont ont fait usage les forces de la résistance ont empêché que les ennemis puissent parvenir à leurs objectifs. Le général Hatami a par la suite affirmé qu'un nouveau chapitre s'était ouvert au sein du ministère de la Défense en vue de suivre les idées du martyr Soleimani en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme takfiriste. Que les auteurs de l'assassinat du général Soleimani sachent que son sang sera vengé. La grande vengeance se réalisera par le retrait des forces américaines de la région. Mais les commanditaires et les auteurs de ce crime ne pourront échapper à la vengeance. Dans la capitale irakienne Bagdad, une grande foule de gens s'est précipitée dimanche matin, 3 janvier, vers la place Tahrir afin de participer à la cérémonie de commémoration ayant lieu à l'occasion du premier anniversaire de la mort en martyr du général Soleimani et d'Abu Mahdi al-Mohandes. La place Tahrir ne se vidait pas dimanche des manifestants qui demandaient à haute voix, à travers leur slogan, le retrait des occupants américains de leur pays et la mise en application de la résolution du Parlement irakien à ce sujet. Les participants à ce grandiose rassemblement intitulé « Martyrs et souveraineté » ont rendu hommage aux deux commandants martyrs de la résistance, Rassem Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes, qui étaient lâchement assassinés le 3 janvier 2020 par les forces américaines près de l'aéroport de Bagdad. Un grand nombre d'habitants d'Amerli, de Talafar et de la plaine de Ninive étaient aussi venus ce dimanche à Bagdad, place Tahrir, signe de renouveler l'allégeance avec les commandants martyrs de la résistance. Sur les images montrant les manifestants réunis place Tahrir, se voient assis beaucoup de yézidis, de turkmènes et de chabakis de Talafar, ainsi que des citoyens chrétiens habitant la plaine de Ninive. Des terroristes ont tendu une embuscade à des bus circulant sur une autoroute dans le centre de la Syrie dimanche soir. 9 personnes, dont une fille de 13 ans, ont été tuées. C'est la deuxième embuscade de cette semaine qui vise les bus circulant entre les zones contrôlées par le gouvernement syrien. Le groupe terroriste Daesh est tenu pour responsable de cette attaque. Mercredi dernier, une attaque de Daesh s'est soldée par la mort de 30 personnes, dont la plupart étaient des soldats qui rentraient chez eux pour les vacances. Les terroristes Daesh sont toujours actifs dans les zones désertiques du sud et du centre de la Syrie, malgré leur défaite de l'année dernière. Des responsables locaux ont déclaré que Daesh serait à l'origine de l'attaque de ce dimanche. Par ailleurs, le site d'information syrien Rojava Network a signalé une puissante explosion près de la base des forces aérospatiales russes située dans le sud de la ville de Ramishli. Selon certains rapports, des hélicoptères Mi-28N de l'armée russe ont décollé de la base de Ramishli pour une opération spéciale anti-Daesh dans le désert. Suite au décès de 5 soldats français en l'espace de 3 jours, le gouvernement français envisage de réduire le nombre de soldats déployés au Sahel pour assurer la mission de la force Barkhane. Nous serons très probablement amenés à ajuster ce dispositif. Un renfort, par définition, c'est temporaire, a dit la ministre française de la Défense, Florence Parly, dans une interview au quotidien Le Parisien, après le renfort de 600 soldats qui a porté les effectifs de Barkhane à 5100 hommes en 2020. Une décision sera prise à l'occasion du prochain sommet conjoint de la France et des pays du G5 Sahel en février à N'Djamena, a ajouté Florence Parly. 3 soldats français ont été tués lundi dernier dans une attaque à l'engin explosif artisanal revendiqué par le GSIM et 2 autres samedi dans des circonstances similaires. Les 5 soldats ont été tués alors qu'ils circulaient dans des VPL, des véhicules blindés légers de conception vétuste. La ministre a de nouveau exclu toute négociation avec des groupes terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh qui assassinent de manière aveugle et ont du sang sur les mains. Mais la porte est ouverte pour des gens qui ont déposé les armes et qui ne sont pas motivés par une idéologie radicale et criminelle, a-t-elle relevé. Ils doivent se rallier aux accords de paix d'Alger de 2015, a-t-elle ajouté. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont repris dimanche leurs négociations au sujet du grand barrage controversé sur le Nil construit par Addis Abeba et convenu de les poursuivre dans les prochaines semaines, a indiqué le ministère soudanais de l'Irrigation. Les derniers pourparlers qui se sont tenus par visioconférence début novembre s'étaient conclus sans avancée, les négociations étant dans l'impasse depuis plusieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum en aval du fleuve, souhaite un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Addis Abeba, qui juge le grand barrage de la Renaissance essentiel à son développement, y est réticente et soutient que l'approvisionnement en eau de ces pays ne sera pas affecté. Dimanche, des représentants des 3 pays ont tenu de nouvelles discussions par visioconférence en présence de responsables d'Afrique du Sud, pays qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, et d'observateurs internationaux. Il a été conclu que la semaine prochaine serait dédiée à des discussions bilatérales entre les 3 pays, des experts et des observateurs, a indiqué le ministère soudanais de l'Irrigation et de l'Eau dans un communiqué. Ces discussions devraient ouvrir la voie à la reprise des négociations tripartites dimanche 10 janvier avec l'espoir qu'elles se concluent fin janvier, a-t-il ajouté. Et pour fermer le journal, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a assuré que le projet de gazoduc Nord Stream 2 serait mené à son terme grâce au soutien des pays et des entreprises européens, et ce, malgré les sanctions imposées par les États-Unis. le projet Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne en passant par le fond de la mer Baltique, sera bel et bien terminé grâce au soutien des partenaires européens, a fait savoir le vice-premier ministre russe Alexandre Novak le lundi 4 janvier sur la chaîne RBK. Le projet fait l'objet d'un panel de sanctions de la part des États-Unis, lesquelles seront davantage étendues en 2021. Le 1er janvier, le Sénat américain a voté en faveur du budget de défense pour l'année fiscale 2021, lequel prévoit l'extension des sanctions contre le Nord Stream 2, notamment aux entreprises qui fournissent des services d'essai, d'inspection ou de certification. Une décision qui contourne le veto de Donald Trump, qui s'était opposé à certaines dispositions spécifiques du budget. Le Kremlin a reconnu que les sanctions pourraient créer de nouveaux problèmes, mais reste décidé à trouver une solution. La construction du gazoduc a repris en décembre 2020 avec la pause des conduites dans les eaux allemandes. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Kilomètres de portée, Zolfarar de Nasrallah fera noyer Israël. Peu après le tweet du ministre iranien des Affaires étrangères mettant en garde le président sortant US contre un possible coup israélien propre à allumer la mèche d'une guerre mondiale, le ministre israélien de l'énergie s'est précipité, quelque peu déconcentré, à démentir. C'est Israël qui devra s'inquiéter des menaces iraniennes. Mais le démenti est pire qu'un aveu. En fait, au stade où en est le régime israélien, une guerre USA-Iran l'arrangerait à merveille, vu qu'à chaque minute qui passe, Tel Aviv ressent davantage son incapacité organique à jouer le rôle que lui a réparti l'Amérique, à savoir piloter la cohorte d'acolytes des USA en Asie centrale sur fond d'un géant US au pied d'argile qui s'en retire. Les chroniqueurs militaires israéliens reviennent sans cesse sur cette archi-révélation de Nasrallah concernant la taille de l'arsenal de missiles tactiques de la résistance quand il a affirmé au journaliste Al-Mayadin avoir multiplié par deux en 2020 le nombre de ses missiles de précision, remettant ainsi en cause le fondement même de la campagne dite « guerre dans la guerre » dont le mythe de succès a été longtemps vendu aux colons. L'entretien de Nasrallah al-Mayadin comporte un double message. D'abord, le succès du mouvement à surmonter la pandémie et à élargir son arsenal, et ensuite le fait qu'il n'existe plus aucun endroit en Israël qui puisse échapper à des frappes aux missiles du Hezbollah, ce qui veut dire qu'aussi bien Haïfa et Tel Aviv que les ports du sud comme Ashkelon et Ashdod pourraient être pris pour cible. À y regarder de plus près, Nasrallah est en train de nous dire que ces missiles ne sont plus seulement de précision, mais de précision et de longue portée. C'est uniquement ce genre d'engin qui pourrait atteindre le sud d'Israël qu'on croyait être relativement à l'abri puisque les roquettes de Gaza sont moins puissantes et pas précises. Eh bien non, les choses ont visiblement changé. Les missiles tactiques de longue portée dans un environnement tel que le nôtre renvoient à des portées de 700 km. On a toute raison de croire qu'il s'agirait des missiles Zolfarar de facture iranienne dont l'ogive pèse 700 kg. L'optimisation de l'arsenal du Hezbollah aurait été donc une affaire aussi de quantité que de qualité des orbes. Si Israël frappe la Beka, il en recevra la réponse n'importe où en Israël que le Hezbollah le souhaite, a commenté Gershon Cohen, l'ex-académicien militaire sioniste, qui ajoute: Une attaque contre l'Iran déclenchera sans nul doute la riposte du Hezbollah, lançant à Israël des défis qu'il n'est pas prêt à relever. Il y aura d'abord des vagues successives et incessantes de missiles tirés contre le front intérieur, et son mur de feu fera bien déconcerter notre armée de l'air à fixer des cibles à abattre, et c'est sur fond de cet état apocalyptique que les commandos du Hezbollah s'attaqueront à nos colonies du Nord pour s'en emparer, et ils réussiront à le faire, car face aux missiles, nos avions ne seront pas grand-chose. Imaginez une Galilée sous occupation israélienne que nous ne ferions pas pour que cela soit libéré. Le Hezbollah nous poussera à faire d'humiliantes concessions.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 3 janvier 2021. Ce dimanche marque le premier anniversaire de l'assassinat par les États-Unis du commandant de haut rang iranien, le général Qassem Soleimani, et du commandant adjoint des unités de mobilisation populaire irakienne, Abu Mahdi al-Mohandes. Les porte-étendards de la lutte contre le groupe terroriste Daesh. Les pays de la région, et notamment l'Irak, rendent hommage ce dimanche à ces deux commandants tués le 3 janvier 2020 dans une attaque de drones américains à l'aéroport de Bagdad en Irak. Les autorités militaires et politiques iraniennes ont promis que l'Iran vengerait certainement le sang, en effet, de ces deux martyrs. Presque une semaine après l'assassinat de ses commandants, l'Iran a lancé des missiles sur la base aérienne américaine d'Ain al-Assad en Irak, faisant des dégâts à cette base. Pourtant, Téhéran a souligné que l'ultime vengeance serait l'expulsion de toutes les forces américaines de la région. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher justement sur le bilan de la résistance du vivant du général Qassem Soleimani en Irak, dans la région en général, mais aussi au cours de l'année dernière, au moment où justement aujourd'hui, un an après l'assassinat des commandants de la résistance, la résistance est plus forte que jamais, de l'aveu même des ennemis, en effet, de l'axe de la résistance. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Il y a un an, jour pour jour, le président des États-Unis, Donald Trump, a assassiné le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution iranienne, le brigadier général Qassem Soleimani, qui assurait la coordination entre l'Iran et tous ses alliés en Palestine, au Liban, en Syrie et en Irak. Le motif apparent était conforme à la politique des États-Unis qui, depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, tente d'affaiblir et de paralyser l'Iran en lui imposant des sanctions économiques maximales. L'Iran est considéré comme une puissance régionale dont les dirigeants rejettent l'hégémonie des États-Unis. Les Américains et les Israéliens croyaient que Soleimani était irremplaçable et que l'axe de la résistance qu'il dirigeait serait sérieusement affaibli par son assassinat. Beaucoup sont allés plus loin en décrivant l'assassinat comme un coup porté aux objectifs stratégiques de l'Iran. Le 1er janvier 2020, Sardar Soleimani s'est rendu au Liban, où il a tenu une réunion de plusieurs heures avec le secrétaire général du Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah. Le Liban est un élément fondamental de l'axe de la résistance. Plus tard dans la journée, le général Soleimani s'est rendu en Syrie, un autre membre de l'axe de la résistance où il a passé la nuit. Le lendemain, Qassem Soleimani a pris un vol de l'aéroport de Damas en direction de Bagdad, en Irak, où il a atterri quelques minutes avant minuit. Le brigadier général Soleimani et les quatre officiers iraniens l'accompagnant ont été accueillis à l'aéroport par le commandant d'unité irakien Dehasht al-Shabi, Abu Mahdi al-Mohandes, qui venait le chercher à bord d'un véhicule. Deux drones américains MQ-9 Reaper ont alors lancé des missiles guidés laser Hellfire à une vitesse de 230 km par heure, assassinant Soleimani et Al-Mohandes et de tous leurs compagnons iraniens et irakiens. Trump s'est alors targué d'en avoir tué deux pour le prix d'un. À ses yeux, Soleimani et Mohandes étaient dorénavant relégués aux oubliettes de l'histoire et il a tourné la page. Mais c'était loin d'être le cas. Du jour au lendemain, les conséquences de l'assassinat illégal commis par les États-Unis ont fait bien plus que ce que Soleimani lui-même aurait pu accomplir de son vivant. L'assassinat ciblé du 3 janvier a insufflé un nouvel esprit à la révolution islamique de l'imam Khomeini. En effet, l'assassinat a uni le peuple iranien sous le drapeau national. Des millions d'Iraniens ne pouvaient accepter de voir leur général assassiné d'une manière aussi lâche, par un drone plutôt que sur le champ de bataille.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Aïssar Midani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris, et Maître André Chami, juriste international et sociologue depuis Alsace. Maître Chami, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et bonjour à votre invité également.
Maître Chami, comme vous le savez, il y a un an, jour pour jour, le général Qassem Soleimani, le porte-étendard de la lutte contre le groupe terroriste Daesh, mais aussi contre l'hégémonie, en effet, du tandem américano-israélien dans la région, et son compagnon Dehasht al-Shabi, Abu Mahdi al-Mohandes, ont été tués en martyr. Un an plus tard, quel regard rétrospectif portez-vous justement sur les principales raisons de l'assassinat de ce porte-étendard, de ces porte-étendards de la lutte contre le terrorisme? Est-ce que les États-Unis de Donald Trump sont-ils parvenus à atteindre leurs objectifs, entre autres, affaiblir les intérêts stratégiques de l'axe de la résistance dans la région?
Vous savez, ce type d'assassinat n'a pas une seule raison. C'est un assassinat politique d'abord, mais également militaire et ce que j'appellerais moi intellectuel, psychologique. Parce que vous avez effectivement un assassinat politique parce qu'on vise une personnalité iranienne de haut rang qui avait sa place aussi bien dans le système politique iranien que dans le système militaire, voire stratégique. Vous avez également une personnalité qui avait un caractère sur le terrain militaire qui a marqué son temps, et ce depuis, si j'ose dire, la naissance de cette personnalité, depuis la guerre Irak-Iran jusqu'à son assassinat. Le général Soleimani a gravi des échelons, certes, mais à chaque fois et à chaque étape, il a marqué son temps, il a marqué le champ de bataille, il a marqué chaque intervention commise dans ce cadre-là par son empreinte et par son esprit, qui est évidemment caractérisé par une sorte de génie militaire, c'est-à-dire génie d'organisation, génie de stratégie, génie d'accomplissement des manœuvres afin de parvenir à chaque fois à une victoire sur le terrain. Mais vous avez également le troisième aspect que j'appellerais psychologique et intellectuel, parce que le général Soleimani était devenu un symbole de la résistance par sa personnalité, par ses actions, par l'accomplissement qu'il a pu faire sur les différents champs de bataille, que ce soit au Liban, en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Il a pu démontrer, et bien entendu en Palestine, sans oublier la Palestine, il a pu démontrer qu'il y a un autre esprit qui peut être insufflé dans cette région-là afin de faire face à cette hégémonie américaine et cette volonté d'impérialisme américain qui règne depuis des années, pour ne pas dire depuis la naissance des États-Unis. Et il a, à travers ses actions, montrer qu'il y a une autre voie qui peut être empruntée. Et cette voie-là, c'est l'axe de la résistance, c'est la capacité de chaque peuple de déterminer son propre destin par la lutte, par le combat, afin de parvenir à des victoires. La Palestine est en train de le démontrer à travers sa résistance et aujourd'hui la réunification presque de toutes les forces palestiniennes. Vous avez également le Liban qui a pu vaincre les Israéliens d'abord par la libération accomplie au mois de mai 2000, mais également à travers la victoire retentissante entre juillet et août 2006. Qui a démontré non seulement l'échec de la stratégie militaire israélienne, mais également les projets américains dans la région, parce que tout cela s'intégrait dans un projet global de l'axe américano-sioniste dans la région. Ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, n'était que, si j'ose dire, l'apothéose des actions du général Soleimani dans la région, parce qu'il a démontré que cet axe est devenu quasi invincible, et à chaque fois qu'il est attaqué, il sort de ses luttes et de ses combats victorieux. Et je me rappellerai, moi, avec beaucoup d'émotion, sa présence sur le champ de bataille, que ce soit en Syrie et en Irak, où il était aux côtés de derniers des soldats, de derniers remparts, si j'ose dire, pour leur montrer la voie. Et il était le premier à mener la bataille, c'est-à-dire à s'engager personnellement avec son propre corps, sans craindre l'ennemi et sans craindre une quelconque réaction en faisant face aux balles, aux combattants, aux francs-tireurs, à l'artillerie. Il était vraiment lui-même, par sa personne, un véritable rempart à toute agression. Et je dirais notamment, si j'ose dire, la dernière bataille qui était en Irak, où il a démontré que une armée ne peut pas être vaincue quand elle a la volonté et la croyance en ses capacités. Et il a pu retourner la situation, puisque l'armée irakienne et les forces irakiennes étaient en train de battre en retrait. Et dès son arrivée, il leur a dit maintenant le regard doit être tourné vers l'ennemi, et ils sont retournés dans l'autre sens, et ils ont commencé à, si j'ose dire, achever les combattants de Daesh les uns après les autres jusqu'à presque dernier point. Et là, on est en train de liquider, si j'ose dire, les poches qui sont plus des problèmes de sécurité que des problèmes militaires, alors que le problème militaire a été traité sous l'égide du général Soleimani et par la puissance de cette personnalité sur le terrain-là. Nous avons évidemment eu beaucoup d'émotions à en parler, nous avons beaucoup de chaleur au cœur quand on cite le nom du général Soleimani, mais au-delà de cette émotion-là, il y a une nouvelle renaissance de cet axe de la résistance, et je pense que derrière lui, il a laissé des milliers de généraux Soleimani qui sont capables de mener bataille aux ennemis de toute cette région-là et de l'axe de la résistance.
Merci infiniment pour ces éclairages. Maître Shamir, restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Paris Madame Aïssa Hamidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Hamidani, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour et merci de votre invitation. Et bonjour à Monsieur Shamir.
Madame Hamidani, Maître Shamir l'a rappelé, le général Soleimani est-il en effet le symbole de la résistance? Les États-Unis s'imaginaient pouvoir en effet affaiblir l'axe de la résistance en éliminant ce symbole, mais ce qui s'est produit en effet au cours de l'année dernière, c'est justement le contraire. Et dans ce contexte, le successeur du général Soleimani, le général Kahani, a récemment, hier justement, a souligné que les méfaits américains, que ces actions terroristes américaines n'auront aucun impact sur le chemin de la voie de la résistance. Dans quelle mesure, Madame Hamidani, justement, alors les actions américaines, les agissements américains ont renforcé, contrairement à ce qu'ils attendaient, l'axe de la résistance dans la région?
Effectivement, en fait, cette agression a permis au front de la résistance de resserrer les liens, d'une part, et puis de s'adjoindre d'autres personnes. En fait, quand on voit l'ensemble, les millions de personnes qui ont participé aux obsèques du général Soleimani. Déjà, en Iran, à Mashhad, à Téhéran, dans toutes les villes d'Iran, mais aussi à Karbala et à Bagdad, et dans toutes les villes irakiennes, mais aussi au Liban, mais aussi en Syrie, on se rend compte quand même que cette personne a été vraiment un... il avait une grande estime de l'ensemble de la population. En plus, cet assassinat est arrivé au moment où il y avait des manifestations en Irak qui étaient soi-disant orientées, selon les médias occidentaux mainstream, contre la présence iranienne, en fait. Et donc là, ça a permis de balayer les millions qui sont sortis. Ça a permis de balayer effectivement toutes ces tentatives de division du peuple irakien et de cette unité de combat entre le peuple irakien et le peuple iranien, mais aussi l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Un autre point, en fait, ça a permis aussi une riposte importante. Et notamment cette riposte qui a été faite contre la base militaire, la plus grosse base militaire en fait en Irak, la base de Ayn al-Assad. Ça a fait effectivement la riposte iranienne a fait trembler les Américains, bien qu'ils aient toujours nié qu'il y avait des victimes, etc. Mais ce n'est pas seulement par les victimes, c'est le fait d'avoir osé effectivement faire une riposte de cette envergure. Ça a donné aussi beaucoup de courage à beaucoup de peuples. Par la suite, effectivement, l'ensemble des actions qui ont été menées par l'Iran et par le Front de la Résistance, les ripostes qui sont toujours annoncées et qui font très peur à l'ennemi israélien et qui font très peur aussi aux autres ennemis, les autres ennemis, je cite par là effectivement l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, etc., qui veulent absolument transformer l'Iran en ennemi, alors que l'Iran ne fait que tendre la main du débat et de la discussion, et pour faire effectivement ensemble une zone exempte de présence étrangère. En fait, comme ce sont les valets, les pouvoirs de ces pays sont des valets des Américains, donc effectivement, ils ont aussi peur, et on a vu en fait se resserrer les liens autour d'Israël, toujours sous l'ordre de Trump et Pompeo. Ce que je voudrais dire en fait par là, il est certain que le général Qassem Soleimani a aussi tissé des liens très très forts entre l'ensemble non seulement des pays, mais aussi des peuples de l'axe de la résistance. Je voudrais dire, hier quand même, il y avait de très grands meetings où tout le monde a voué fidélité à cette lutte, aussi bien en Syrie, en Irak, au Yémen, en Iran bien sûr, mais aussi en Palestine et au Liban. Ce front qui se prolonge jusqu'au Liban, et le fait qu'à Gaza, ça a été, à cette occasion, il y a eu des grandes manœuvres pour la première fois au grand jour avec les armes vives et avec les vrais avec les combats. Donc ça aussi, ça montre que le front de la résistance se renforce.
Merci, Madame Médani.
Et ça va de l'Iran jusqu'à Gaza.
Merci.
De Téhéran jusqu'à Gaza, en passant par Beyrouth.
Merci pour ces précisions. Maître Chami, alors, un an après l'assassinat du général Soleimani, bien sûr, le message et l'école du martyr Soleimani se perpétue. Est-ce qu'on va assister dans la prochaine étape à l'expulsion des forces d'occupation américaines de la région, ce qui serait bien entendu l'ultime vengeance, en effet, pour le sang des martyrs de la résistance. En 3 minutes, s'il vous plaît, Maître Chami.
Vous savez, aujourd'hui, la présence américaine est devenue de plus en plus précaire. C'est pire que la première sortie des États-Unis du territoire irakien. Là, aujourd'hui, ils ne savent plus qui est leur ennemi, raison pour laquelle les Américains voudraient avoir une sorte de fenêtre pour partir. Sauf qu'aujourd'hui, leur sortie ne peut être que humiliante. Et je l'ai dit dès le premier jour, suite à l'assassinat du général Soleimani, j'ai dit, c'est le premier prix que doivent payer les Américains. Et effectivement, les Américains sont en train de le payer. Les attaques ont commencé et continueront et s'amplifieront. Parce que plus personne ne supporte leur présence. Cela existe évidemment en Irak, mais ça existera également en Syrie. Et c'est toute la région qui doit être nettoyée, je dis bien nettoyée de la présence américaine. Parce que les Américains n'ont plus d'autre choix que de partir, parce que ce sont leurs projets au pluriel qui ont échoué. Et à partir du moment où vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus de perspective, qu'est-ce qui vous reste? Il ne vous reste plus rien. Mais également, il y a derrière ça, il y a, la riposte. Moi, je n'aime pas le terme vengeance, le terme riposte. La riposte de l'acte de la résistance s'amplifiera de la même manière, c'est-à-dire la sortie des États-Unis de ces territoires n'est pas, à mon sens, et vous le verrez dans les prochains mois, l'unique prix, c'est-à-dire c'est le prix immédiat parce que c'est un prix indiscutable, mais également il y a un autre prix, c'est la disparition de leurs projets dans la région. Et par conséquent, c'est toutes les ramifications qui sont en train d'être données aujourd'hui pour donner une sorte de figuration sur le rôle de chacun, notamment les pays du Golfe et de l'État sioniste, mais également ces États nains, que j'appelle moi, vont disparaître par l'effet de déflagration qui va aboutir suite au départ des Américains de la région, parce que leur départ annoncera automatiquement le départ de tous leurs sbires, si j'ose, de la région. Et ceux qui essaient de s'accrocher tant bien que mal à leur présence et à leur force en disant « nous, on vous soutient », mais votre soutien n'apporte à rien, ni aux Américains, ni à leurs alliés, et plus particulièrement à l'État sioniste ou à l'entité
Merci,
sioniste.
Maître Chami.
Par conséquent, aujourd'hui, préparons-nous à l'après-Amérique au Moyen-Orient. Ces forces-là n'auront plus aucune présence. Ça, c'est incontestable et indiscutable.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Mme Midani. Mme Midani, très rapidement, s'il vous plaît. Alors, avec cette vague de sentiments anti-américains grandissant dans la région et cette haine généralisée, une haine qui s'est exacerbée, en effet, depuis l'assassinat du général Soleimani, quelles sont les marges de manœuvre des forces américaines dans la région, notamment en Irak et en Syrie? Très rapidement, s'il vous plaît.
En fait, les marges de manœuvre des Américains se réduisent de plus en plus. Et c'est la raison pour laquelle ils ont couru pour secourir Israël aussi. Mais je pense qu'Israël aussi, il est en débandade. Quand on voit le courage et les manœuvres actuelles des Palestiniens et puis leur détermination, je voudrais dire quand même que c'est très important ce qui s'est passé hier au niveau des Palestiniens, puisque la totalité, l'ensemble des organisations se sont réunies et se sont unies dans ces manœuvres, et ça c'est une grande première, et qu'ils ont tous affirmé en fait que la voie de la lutte armée est une voie indispensable à la libération de toute la Palestine. Ça c'est un premier point. De l'autre côté aussi, les victoires de l'armée syrienne et de la résistance alors que on a vu aussi les villes réactions de Daesh qui se sont attaquées à des bus de circulation normale qui ont tué des civils le jour de l'an, en fait le 31, qui ont tué des dizaines de personnes. Les agressions répétées, tout ça montre qu'ils sont complètement effectivement dans la débandade et ils s'attaquent à tous les civils. D'un autre côté aussi, au niveau de Hasakeh, on voit qu'ils s'attaquent aux habitants de la ville de Hasakeh pour les faire sortir de chez eux, de leur maison, et à travers Qassad, bien sûr, ces mercenaires qui sont soutenus par les Américains. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la montée de cette résistance populaire au niveau de cette résistance populaire au niveau de la Syrie, au niveau de Hasakeh, de Qamishli, de l'ensemble des régions qui sont occupées par Qassad en fait et leurs alliés américains, il y a de plus en plus de réactions contre d'attentats, je dirais, qui poussent les Américains à sortir. Et d'ailleurs, il y a eu des messages de la part des Américains qui des rencontres aussi en sous-table qui disent écoutez, on va partir, mais assurez-nous une sortie honorable, etc. Ne mettez pas trop le paquet sur nous. Et ça a été fait par rapport ça a été dit clairement par Samahat Sheikh Nasrallah qui a fait état de ses contacts justement sous la table pour qui sont des appels.
Merci, Madame
presque
Midani.
Au secours des Américains.
Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris. Maître André Chamy, juriste international et sociologue depuis Alsace. Merci infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parle ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Très chers amis auditeurs, dès la semaine dernière, nous avons commencé une randonnée dans la province de Fars. Nous avons parlé de l'histoire de cette province et cette semaine, nous vous parlerons encore plus de cette histoire. À l'époque islamique qui coïncide avec le califat d'Omar, la province de Fars est à plusieurs reprises l'objet d'attaques de la part des gouvernements du calife qui se heurtent à la résistance des habitants de cette province. On suppose que leur rébellion contre la domination arabe explique l'absence d'une datation exacte du siège de la région dans l'historiographie musulmane. À partir de l'an 650, Estahr perd de son importance au profit d'une ville plus prometteuse, Shiraz. Yaroub Leys, fondateur de la dynastie Safaride, s'intéresse également à cette ville et y mène une expédition vers la fin du IXe siècle en vue de réprimer les rébellions locales. La province tombe ensuite sous le contrôle de la dynastie des Bouïdes. Azzedot-Dolé, 959-993, choisit Shiraz pour capitale au lieu de Bagdad, antérieurement assiégé, et qu'il a pris soin d'occuper avec son état-major. Il ordonne aussi la construction d'un pont au-dessus de la rivière Kor, pont aujourd'hui connu sous le nom de Bande Amir. Après les Bouïdes, La province de Fars est gouvernée par les Seljoukites avant de tomber sous la domination des Atabeks, dont le chef turcoman, Sangor Ebdemodut, conquiert la province de Shiraz. Il assure ainsi aux Atabeks le contrôle sur ce territoire pendant plus d'un siècle, à partir de l'an 1148. Le trône de Fars passe ensuite de père en fils jusqu'à l'arrivée des troupes mongoles qui colonisent le territoire. Oulaghouran, premier gouverneur mongol de la Perse, qui règne aussi sur les régions situées au-delà du territoire persan, décède en 1235 et cède le trône à son fils Abaga, qui règne pour sa part une dizaine d'années. Il désigne le fils de son chancelier, Atamalek Djeveini, Bahaeddin, comme gouverneur de la province de Fars. Celui-ci opte pour une politique implacable, intolérante et autoritaire, visant à maîtriser ses sujets par la peur. Il serait cependant injuste de ne pas relever que cette attitude inflexible fait de son règne une période de paix et de sécurité. Il décède à l'âge de 32 ans, cédant ainsi sa place à Harun Khan, qui la laisse à son tour à son propre fils, Qazan Khan. Ce dernier, en pieux et juste, apporte au peuple une certaine forme de paix, de courte durée cependant, car il meurt prématurément. En 1353, la province tombe sous le contrôle d'Amir Mobarezeddin Mohammad Mozaffar, fondateur de la dynastie Mozaffaride, qui prend soin de réunir une grande armée à l'aide de ses fils, notamment Shah Shuja. Il parvient ainsi à détrôner le dernier des Atabeks et à régner sur le Fars à partir de 1395. La province ne cesse en somme d'être ballottée d'une dynastie à l'autre, partageant la destinée de bien des provinces iraniennes, frappées par l'instabilité politique durant les 14e et 15e siècles en Perse. Shah Ismail le Safavide, 1601-1623, conquiert la province de Fars en 1623. Mais celle-ci tombe très vite sous la coupe de Mahmoud l'Afghan, qui est à son tour détrôné par Nader Qoli. Ce dernier fait régner une fois de plus le calme et la paix dans la région, après avoir été couronné en 1729 comme roi d'Iran sous le titre de Nader Shah Afshar de la lignée Afsharite. Ce dernier ordonne la réparation des dégâts de guerre survenus dans les villes, surtout celles de la province de Fars. Constatant la croissance et la prospérité de la région, le gouverneur de la province, Tarikhan Shirazi, se révolte et réclame l'indépendance. Cet événement oblige Nader à encercler la ville de Shiraz 4 mois durant. Les victimes et les dégâts sont nombreux, et les magnifiques jardins à peine restaurés sont de nouveau en ruine. Au même moment, la peste dévaste le Fars, entraînant la mort de près de 14 000 personnes. Entre-temps, Nader Shah est assassiné en 1747. La province vit alors la pire période de son histoire. Il faut attendre 3 ans pour qu'en 1750, Karim Khan Zand apporte de nouveau la paix dans la région. Il choisit Shiraz comme capitale et ordonne la restauration de la ville dans le but de lui redonner son éclat et sa gloire de jadis. La province de Fars, et notamment la ville de Shiraz, longtemps capitale politique ou culturelle de la Perse, ont souvent été la cible de nombreuses attaques. C'est la raison pour laquelle, lorsque Aramamatran Rajar reprend le trône du dernier des Indes, Lotf Ali Khan, il choisit d'adopter Téhéran au lieu de Shiraz comme capitale. Shiraz, alors presque en ruine, parvient enfin à panser ses plaies loin des guerres et des intrigues du trône. La dernière action d'Aramamatran est de faire déterrer la tombe de Karim Khan Zand, fondateur de la dynastie Zand, et de faire transporter ses restes à Téhéran. Il ordonne de les enterrer sous les marches de son trône dans le palais du Golestan à Téhéran, comptant de la sorte manifester la haine qu'il voue à la dynastie Zand en piétinant tous les jours les ossements de son plus grand ennemi. Tout au long du règne d'Aga Muhammad Khan, la province de Fars est gouvernée par Fath Ali Khan, mais après la mort du premier en 1797, le second reprend le pouvoir et désigne ses fils comme gouverneurs, y compris du Fars, qui est confié à Nawab Hossein Ali Mirza. Jusqu'à la fin de l'époque Qajar, la province de Fars se retrouve entre les mains de gouverneurs, tous plus incompétents les uns que les autres, et passant la majeure partie de leur temps à s'enivrer ou à se battre entre eux, et contre les tribus rebelles telles que les Mamassani et les Rashraï. Du fait de son passé politique, la province de Fars comprend de nombreux monuments historiques riches en nuances architecturales et qui reflètent chacun, à leur manière, une partie de l'histoire de la province et du même coup, celle de l'Asie occidentale. Grâce à ses caractéristiques géographiques et à sa proximité avec le golfe Persique, la province est depuis longtemps une zone de peuplement importante pour différentes tribus locales ou pour les populations venues d'autres parties du monde. La province conserve également aujourd'hui ses tribus originelles, les Rashraï, les Mamassani, les Ramsay et les Coquiluyé, qui ont réussi à conserver leur culture et style de vie unique, dont l'ensemble constitue une part non négligeable de l'héritage culturel de cette région. L'actuelle province de Fars offre l'exemple d'une région culturellement riche où s'entrecroisent valeurs anciennes et modernes. On y trouve une agriculture pour le moins prospère. Les produits principaux en sont les céréales, les agrumes, les dattes, la betterave à sucre et le coton. Le jus de citron de la région est particulièrement savoureux. La province possède des installations pétrochimiques, une raffinerie de pétrole, une usine de production de pneus et d'accessoires automobiles, etc. Signalons pour finir que le tourisme est également l'un des champs d'activité dynamique de la province, Fars étant l'une des régions iraniennes les plus visitées. L'artisanat, enfin, est avant tout centré sur la production d'objets en argent et en bois marqueté, ainsi que de kilim. Thank you.